Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous avons vu la dernière fois que le pape était principe d'unité. Il nous faut maintenant bien comprendre le sens de cette affirmation de notre Seigneur lorsqu'il dit à Pierre, en Saint Matthieu, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » L'interprétation la plus commune aujourd'hui, c'est que Pierre, parce qu'il est une pierre, un rocher donc, est le fondement de l'Église et que l'Église est bâtie sur pierre. C'est déjà une grossière erreur, mais si vous ajoutez à cela la fausse notion de la société et du rapport du chef à la société que l'on a depuis, on peut dire, les jésuites ou la Renaissance, que l'on a surtout depuis Machiavel, qui a eu beaucoup plus d'influence que l'on peut croire sur la mentalité des gens, et puis tous les faux philosophes, tout cela qui ont complètement oublié ce qu'était une société, et à plus forte raison ce qu'est l'Église, la société des amis de Jésus-Christ crucifiés, unis dans le Saint-Esprit, et qui y voit essentiellement une structure. Alors vous comprenez bien que si Pierre est le fondement de l'Église, Pierre et donc tous les papes, ça je n'ai pas besoin de démontrer, que lorsque notre Seigneur parle à saint Pierre, tout cela se poursuit dans tous les papes, c'est l'enseignement du Concile Vatican, hein, ça ne fait pas de difficulté. Mais donc vous comprenez que si on prend le pape pour le fondement de l'Église et que on donne au pape comme modèle un Machiavel ou un demi-Machiavel, parce que Machiavel va quand même un peu loin, ou qu'on donne tous ces modèles que présentent les faux philosophes modernes, alors du coup, on transforme l'Église en une tyrannie. C'est ce qui se passe aujourd'hui, pas seulement avec le pape François, mais avec Benoît XVI, avec Jean-Paul II, avec Paul VI. Tout cela était des tyrans qui ont imposé leur vue, Jean XXIII le premier. Jean XXIII a convoqué le Concile Vatican II pour imposer des vues personnelles. Il le dit expressément dans son discours aux cardinaux pour l'annonce de la convocation de Vatican II. Alors du coup, non seulement les fidèles ne sont plus rien que des sortes d'esclaves privés de toute liberté, de tout jugement surtout, obéissez, obéissez. Voilà ce qu'on entend toujours. Mais surtout, les fidèles perdent la foi. Les pays perdent la foi, la chrétienté disparaît, le Christ ne règne plus sur les États, etc. Tout cela a été rendu possible par une fausse interprétation de cette phrase de Jésus-Christ, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Je pense qu'il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour se rendre compte que l'Église ne peut pas être fondée sur un homme, même si cet homme est le vicaire du Christ. Eh bien, commençons par voir le sens des mots, puisque le français est très ambigu, « tu es pierre et sur cette pierre », mais en latin, « tu es petrus et superanque petram ». Même si vous connaissez peu de latin, Petrus est du masculin et Petram est du féminin. Donc déjà, on a deux mots différents. Ce sont des noms, pas des adjectifs. Un adjectif qu'on met au masculin ou au féminin, ça reste le même mot. Mais un nom masculin ou un nom féminin, ça désigne des réalités différentes. Si vous allez voir dans le dictionnaire latin, ce n'est pas difficile, vous trouverez, dans le Gaffio par exemple, que le mot Petrus n'existe pas en latin, il ne désigne que l'apôtre Saint-Pierre. C'est un néologisme latin, un mot nouveau en latin, formé après l'évangile pour désigner Saint-Pierre en raison de la comparaison que notre Seigneur fait entre Saint-Pierre et le rocher. Donc, en latin, lorsque notre Seigneur dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon église », il ne désigne pas Saint-Pierre. Il est intéressant d'aller voir le texte grec. Malheureusement, je ne connais pas l'araméen ni l'hébreu, et donc je ne peux pas aller vous analyser les mots tels qu'ils ont été prononcés par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas un problème, parce que nous avons dans l'Église l'obligation de faire confiance à la traduction latine et aux traductions grecques, et non pas aux traductions françaises, qui ne sont pas des textes de référence. Donc, lorsque nous avons « Tu es Petrus et superam Petram », nous avons là un texte qui nous est donné par l'Église, et dans le texte grec de même. Or, en grec, vous avez deux mots, « Petros » au masculin et « Petra » au féminin. Là, pour le coup, les deux mots existent. Seulement, ils n'ont pas le même sens. Ils ont des sens très rapprochés, mais ils n'ont pas le même sens. « Petros » signifie « pierre » au sens de « caillou ».« Petra » signifie « rocher dans la mer ». Et de plus, « Petra » possède un sens figuré, comme « rocher ». On dit d'un homme qu'il est un roc, par exemple, alors qu'on ne dit jamais d'un homme qu'il est une pierre. Sauf pour dire qu'il est lourd comme une pierre. Mais la qualité d'un homme, vous voyez, on dit qu'il est un roc. On a exactement la même chose en grec. Petra, au féminin, signifie donc le rocher dans la mer et possède un sens figuré que ne possède pas Petros, à savoir solidité, immobilité. Et Petra peut se dire d'un homme. On peut dire d'un homme qu'il est un rocher, donc qu'il est une Petra. Alors qu'on ne dira pas d'un homme qu'il est un Petros. Ne vous étonnez pas que je sois allé chercher le sens des mots, c'est important. Hein. Des conciles se sont battus à cause d'hérésie sur un simple « i ». Par exemple, de même nature ou de nature semblable. En grec, ça fait « homoousios » ou « homoiousios ». On a défini le terme « nature », le terme « personne », le terme « substance » pour la Sainte Eucharistie, etc. Bref, l'interprétation maintenant de tous les docteurs de l'Église, elle est celle-ci. Saint-Pierre vient de confesser la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu fait homme. Cette vérité est un fondement. Elle est solide comme un roc, elle est immobile parce qu'elle est éternelle. Et notre Seigneur lui dit, « Sur ce rocher que tu viens de confesser, j'édifierai mon Église. » Ce qui fait que pour les docteurs de l'Église, saint Augustin, qui revient constamment, j'ai fait une recherche dans saint Augustin, je crois que j'ai trouvé 10 citations, et encore je me suis arrêté avant la fin, 10 citations où il dit que Petra, la pierre sur laquelle l'Église est édifiée, c'est le Christ ou éventuellement la foi dans le Christ. Et il dit, Saint-Pierre a reçu son nom à partir du rocher, comme le chrétien a reçu son nom à partir du Christ, et non pas l'inverse. Le Christ ne s'appelle pas Christ parce qu'il s'occupe des chrétiens. Les chrétiens s'appellent chrétiens parce qu'ils suivent le Christ. Eh bien, de même, ce serait idiot de dire que la pierre fondamentale de l'Église a reçu son nom à partir de Saint-Pierre, alors que c'est Saint-Pierre qui a reçu son nom à partir de ce rocher. Saint Augustin, avec sa grande honnêteté, à la fin de sa vie, dit « J'ai enseigné que cette pierre, c'est le Christ. » On peut également enseigner que cette pierre, c'est la foi dans le Christ, au lecteur de choisir. Vous remarquez que c'est la même chose, hein, la foi dans le Christ désigne le Christ. Saint Thomas, lui, a choisi. Il dit « C'est le Christ. » Et il a choisi en s'appuyant tout simplement sur l'Écriture sainte, qui est très explicite. Vous avez d'abord Saint Pierre lui-même, dans sa première épître. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et mise en honneur par Dieu. Et vous, comme des pierres vivantes, soyez posés sur lui pour former une maison spirituelle, un sacerdoce saint qui offre des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et c'est là que Saint Pierre va parler de race royale et de peuple de prêtres, ce que je vous ai souvent cité. Et c'est le Christ. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, c'est le Christ, choisi et mis en honneur par Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, soyez posés sur lui pour former une maison spirituelle. Et saint Thomas d'Aquin cite la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, « La pierre était le Christ ». 1 Corinthiens, chapitre 3, « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir le Christ Jésus ». Et juste après, saint Thomas d'Aquin dit « Sur toi la pierre », donc à propos de saint Pierre, « parce que de moi, la pierre, tu reçois d'être pierre ». Autrement dit, si tu es un rocher, tu le reçois de moi. C'est moi qui te communique cette qualité de rocher. Ce que je viens de vous dire, cet homme est un roc. Alors, dans ce sens, comme je suis la pierre, de même je bâtirai sur toi, etc. Mais dans ce sens, vous voyez. Alors saint Thomas continue, le Christ et Pierre sont-ils deux fondements? Il faut répondre que le Christ l'est par lui-même, mais que Pierre ne l'est qu'autant qu'il confesse le Christ. Et voilà. Saint Pierre n'est une pierre, un rocher, que autant qu'il confesse le Christ. Lorsqu'il ne cesse de confesser le Christ, donc de confesser la foi au Christ, il cesse d'être une pierre. Et je ne dis pas, et saint Thomas d'Aquin ne dit pas, lorsqu'il perd la foi. Non, lorsqu'il cesse de confesser la foi. Et saint Thomas d'Aquin cite saint Paul aux Éphésiens, chapitre 2, « Édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, » donc les apôtres et les prophètes sont bien des pierres, voyez, « le Christ Jésus demeurant la pierre angulaire. » Et de même l'Apocalypse, la ville avait 12 bases sur lesquelles étaient inscrits les noms des 12 apôtres et celui de l'agneau. Commentaire de saint Thomas, « Ainsi, le Christ est le fondement par lui-même, mais les apôtres ne le sont pas par eux-mêmes, mais par une concession de la part du Christ et par l'autorité que le Christ leur a donnée. » Et saint Augustin en profite pour dire que saint Pierre représente à la fois la force et la faiblesse de l'Église. Il représente la force de l'Église lorsqu'il suit le Seigneur qui va à sa passion, et il représente la faiblesse, une faiblesse d'un certain genre, quand interrogé par une servante, il renie le Sauveur. Les conséquences avec l'enseignement de Vatican I. Vatican I tire les conclusions des principes qu'il a posés, principes qu'il a posés sur la foi et qu'il a posés sur la hiérarchie de l'Église, et ce que je vous ai expliqué au dernier sermon. Et donc, il va rappeler comme un dogme la primauté du pape sur toute l'Église. Et il rappelle que cette primauté est indépendante de tout pouvoir humain. Mais tout cela n'existe qu'en dépendance de la fonction dévolue à Saint-Pierre, donc au pape, et Vatican I l'expose clairement. Le Saint-Esprit n'a pas été donné à Pierre et à ses successeurs pour enseigner une nouvelle doctrine, mais pour garder saintement et exposer fidèlement le dépôt de la foi. Mais il faut aller plus loin dans l'analyse. Une fois que la foi est communiquée au peuple chrétien, elle devient un trésor de toute l'Église, c'est-à-dire de tous et chacun des fidèles. Elle cesse d'appartenir au pape en propre, enfin elle n'a jamais appartenu au pape en propre, mais disons que lorsque le pape fait une définition dogmatique, c'est lui et lui seul qui l'a fait. Mais une fois qu'elle est faite, C'est comme un saint qui est canonisé, on ne peut pas décanoniser un saint. De même, quand un enseignement est clairement donné par l'autorité de l'Église, on ne peut plus affirmer le contraire. Et cet enseignement devient la propriété de toute l'Église, donc de tous et de chacun des fidèles, puisque l'Église est une société, c'est un bien qui est possédé en commun par tous et chacun. Et alors, si le pape s'en écarte, l'Église peut rappeler au pape l'enseignement infaillible de l'Église pour ne pas suivre ce pape qui erre. Alors on va nous faire une objection, à savoir que nul ne peut juger le pape. Ce n'est pas du tout l'avis des docteurs du Moyen Âge qui disent, c'est un adage de Gratien, le premier siège, c'est-à-dire le siège de Pierre, n'est jugé par personne, sauf s'il dévie de la foi. Et les théologiens donneront une interprétation extensive de ce texte. Ils estiment qu'un pape qui travaille contre le bien de l'Église dévie de la foi. Au sens strict, non. Travailler contre le bien de l'Église, ce n'est pas nécessairement détruire la foi, ou plutôt nier la foi. Mais c'est la détruire d'une certaine manière, parce que c'est créer des conditions qui occultent la foi, c'est créer une pratique qui va contre la foi. Et quand on ne vit pas comme on pense, on finit par penser comme on vit. Et donc lorsque le pape ne fait pas vivre l'Église selon la foi, il y a un grand danger que l'Église finisse par perdre la foi en vivant comme des païens. Ces choses-là n'ont jamais fait de difficulté dans l'Église, on peut dire jusqu'au XVIe siècle. Alors, remercions Dieu du don qu'il nous a fait du pape en général, car l'Église a eu beaucoup de saints papes canonisés, elle a eu énormément de saints papes qui ont fait beaucoup de bien. Mais comme l'Église est militante, elle vit dans les épreuves et le bon Dieu permet qu'elle soit attaquée et qu'elle soit quelquefois blessée dans celui qui est à la tête. Le bon Dieu, la Providence le permet pour que nous vivions d'autant plus du Saint-Esprit qui est la vie de l'Église, qui est l'âme de l'Église, que nous vivions d'autant plus de la foi, que nous retrouvions le sens profond de notre attachement à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons remercier Mgr Lefebvre d'avoir exposé cela de façon si limpide, si lumineuse, sans faire de grandes phrases, mais lorsqu'il disait « la foi est au-dessus du pape et le pape n'est pas au-dessus de la foi », ou bien quand il a fait l'opération survie en sacrant 4 évêques contre l'avis du pape, contre la volonté formelle du pape, il était dans la droite ligne des théologiens du Moyen Âge. Le premier siège n'est jugé par personne, sauf lorsqu'il dévie de la foi et lorsqu'il travaille contre le bien de l'Église. Or, il était manifeste que Jean-Paul II travaillait contre la foi d'une part et contre le bien de l'Église. Contre la foi avec la réunion de toutes les fausses prétendues religions à Assise, il ne faut quand même pas oublier qu'il y eut un Bouddha, une statue de Bouddha sur un tabernacle d'une église d'Assise, et contre le bien de l'Église en refusant à Mgr Lefebvre de sacrer de bons évêques, c'est-à-dire en refusant à toute l'Église d'avoir de bons évêques, puisqu'il exigeait que tous adhèrent à Vatican II et à ses conséquences et à ses réformes et à tout le reste. La seule chose qui est vraiment étonnante et difficile à comprendre, c'est que les disciples de Mgr Lefebvre n'aient pas compris la profondeur de sa doctrine, ou, s'ils l'ont comprise, qu'ils ne l'aient pas mise en œuvre, et que si peu lui soient restés fidèles, non seulement dans les convictions, mais aussi dans la pratique et dans l'action. Notre-Dame, reine des apôtres, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.